La Nuit du droit, c'est une soirée unique organisée chaque année à l'initiative du Conseil constitutionnel et relayée un peu partout en France. Une soirée qui vise à rapprocher les citoyens de la justice et des professionnels qui l'incarnent, en se donnant pour objectif de faire connaître le droit, ses principes, ses institutions et ses métiers. Cette année encore, l'Université Paris-Nanterre s'y est pleinement investie autour d'un thème symbolique, loi et société à l'unisson. Thème décliné au cours de manifestations riches et variées au sein de l'UFR Droit et Sciences Politiques en partenariat avec le tribunal judiciaire de Nanterre. Amicus Radio retrace pour vous les moments forts de cet événement avec un fil rouge spécifique pour cette édition, l'étudiant. Qu'il soit collégien, lycéen ou déjà universitaire, l'objectif de cette soirée, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, est de lui faire prendre conscience de sa mission et fonction d'édificateur du droit. Quand l'étudiant rencontre le droit, chers auditeurs, bienvenue dans cette édition in situ de la Nuit du droit 2025.
Monsieur le Président Général, Monsieur le Procureur de la République, chère Madame la Directrice de l'UFR, chers et chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi que d'ouvrir cette nouvelle édition d'être à mon côté de la Nuit du droit, dans sa déclinaison nanterroise, hein, comme on dit ici, qui est un temps fort de la rentrée de l'UFR DSP. Je salue donc tous les collègues et tous les étudiants qui se sont mobilisés cette année encore pour faire de cet événement véritablement un temps fort qui est à l'image de ce que nous portons en tant qu'université.
Après les mots d'ouverture de la présidente de l'Université Paris-Nanterre, mais également de ceux de la directrice de l'UFR de droit et sciences politiques et du président du tribunal judiciaire de Nanterre. Comme chaque année, le bâtiment Simone Veil de l'UFR droit et sciences politiques s'apprête à accueillir pendant 4 heures de nombreux professionnels. Avocats, juges, procureurs, conciliateurs de justice, notaires, professionnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation, officiers de police, techniciens de la police technique et scientifique et bien d'autres encore. Pour aller à leur rencontre, des dizaines d'étudiants se pressent déjà dans le hall, accueillis par les étudiants de l'Académie de droit de Nanterre.
Ça c'est intéressant maintenant, vu que déjà les étudiants aiment beaucoup ces métiers-là, ces métiers du droit international, travailler dans des organisations humanitaires, des organisations internationales, aujourd'hui c'est très prisé. Donc les cursus de droit, ils sont vraiment... ouvert à ces matières-là, déjà que le droit international c'est en pleine expansion depuis maintenant 30 ans. On en a fait en L2, en licence 2 c'était obligatoire pour tout le monde.
Le hall de l'UFR est donc cette année encore transformé en un immense forum des métiers du monde judiciaire où les professionnels répondent sans relâche aux multiples questions qui leur sont posées.
Le délégué de Concorde que vous avez là-bas à gauche, qui parle de médiation pénale, on a vu dans l'âge, c'est pas du tout de la médiation.
À la fois ça nous intéresse,
ça suit. Ah, t'es à la vie, là, ouais. Moi, je travaille avec eux depuis 2009.
Déjà, pourquoi vous avez amené vos élèves et quelle classe, en fait, quel est le niveau de la classe que vous avez amené?
C'est des élèves de terminale qui suivent l'option DGEMC. Et je les ai amenés pour deux raisons. D'abord parce que je savais que différents métiers étaient présentés, donc ça pouvait leur permettre d'avoir une vue un peu synthétique sur les différents métiers du droit qui étaient possibles. Ça leur montre aussi ce que c'est qu'une université, parce qu'ils ont une représentation très floue en fait, hein, dans le secondaire. Voilà. D'autre part, les activités, le côté interactif, là, la petite enquête fictive, tout ça, je sais que ça pouvait parler au public. Dans la variété de ce qui était proposé, la conférence en particulier sur l'affaire Bobigny, ça nous intéressait plus, mon collègue en histoire juridique et moi-même, pour le contenu un petit peu, voilà, lié au contenu même de nos options en terminale. Voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons, quoi.
Est-ce que vous avez échangé avec vos étudiants? Est-ce que ça a répondu à ce qu'ils étaient venus chercher?
Pas encore, parce que là, ils sont encore en cours, donc je vais les voir en cours demain, je vais leur demander, voilà. A priori, je peux vous dire que ça leur a plu, parce que sinon, ils seraient repartis, déjà. ils suivent les différentes choses.
On arrive effectivement sur un des ateliers très attendus à chaque fois, mettant les étudiants à l'épreuve en droit pénal. C'est autour du jeu emblématique du loup-garou qu'ils sont cette année invités à découvrir le travail de la police technique et scientifique. Résolvez les énigmes, rassemblez les indices et trouvez l'assassin avant qu'il ne vous trouve. Une consigne ludique, mais un parcours bien juridique et pédagogique. 11 groupes se succéderont autour de 5 ateliers pour tenter d'élucider la mort mystérieuse du violoniste William Arthur Mozart, digne héritier du célèbre compositeur, et retrouvé dans sa loge avec une plaie contondante sur le haut du crâne, durant l'entracte d'un concert symphonique dans lequel il était premier violon solo. Le sens de l'observation de ce public étudiant est ainsi mis à l'épreuve en suivant les étapes d'une reconstitution de scène de crime, en se formant aux contraintes des constatations techniques et à la recherche de traces et d'indices.
Alors, bonjour à tous. Vous venez de voir une scène de crime il y a peu et vous avez trouvé différents indices. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la boîte de médicaments que vous avez trouvée sur la scène de crime.
C'est la tienne.
Comme d'habitude.
Il fait beau aujourd'hui.
Sur la scène de crime, donc, on a trouvé une boîte de médicaments qui contient de la morphine. La morphine, c'est pas une molécule anodine. Pas comme ça, pour rien. Donc la morphine, c'est une molécule soumise à prescription obligatoire avec des ordonnances sécurisées, inviolables et nominatives. En théorie, inviolables. C'est prescrit par un médecin. C'est la boîte qu'on a retrouvée, elle est au nom de Madame Lamour, qui est ici présente.
Voilà, que j'ai envie qu'il dorme bien.
Les enquêteurs, ils ont prélevé la boîte de médicaments et le laboratoire, on a donc recherché plusieurs molécules dans le sang de M. Mozart, notamment l'alcool, des stupéfiants et certains médicaments. Les analyses sont tombées, les résultats sont tombés plutôt. Nous avons recherché, donc, je vous donne une petite liste pour illustrer, différents médicaments comme le bromazépam, la codéine, le fentanyl, la morphine et le tramadol. Nous n'avons rien trouvé dans le sang de M. Mozart, sauf de la morphine.
Peut-être qu'il s'est suicidé après.
Nous avons retrouvé de la morphine.
Oui, parce
dans
que
le tu as
divorcé avec lui après la dispute.
Mais une deuxième question nous attend, c'est combien y avait-il de morphine dans le sang de M. Mozart? Est-ce que c'est compatible avec une mort d'origine toxique? Donc on a dosé la concentration de morphine dans le sang de M. Mozart et nous avons trouvé une concentration infrathérapeutique, en dessous de la dose thérapeutique. Donc c'est-à-dire une concentration plus faible que la concentration auquel on aurait pu s'attendre si M. Mozart avait été traité par la morphine et avait subi son traitement.
Pendant ce temps, en amphidé, les esprits sont mobilisés autour d'un autre débat.
Alors, bonjour à tous, je reprends la parole pour débuter cette fois cette conférence. Alors, chers étudiants, chers collègues, chers professionnels, chers tous, j'ai le plaisir d'ouvrir l'une des conférences attendues de cette Nuit du droit 2025, dans laquelle les intervenants que je vais vous présenter dans un instant ont discuté d'un thème aux multiples facettes pour vous. Juger au présent le passé peut-il préparer l'avenir? C'est un titre qui est un peu énigmatique au premier abord, mais vous allez le voir, qui conduit le juriste, qui va vous conduire, étudiant, vous avez plusieurs à débuter vos études de droit cette année, qui va vous conduire à réfléchir à la façon dont les évolutions de la société se cristallisent et s'observent particulièrement dans certains procès. Alors, des affaires célèbres, vous en connaissez, on en connaît tous, ce qu'on ignore le plus parfois, ce sont les tenants et les aboutissants de ces procès sur l'évolution du droit. Les questions qu'on va se poser ensemble avec vous, ce sont celles-ci. Le procès fait-il l'évolution du droit, de la loi? Quel est le poids de l'opinion dans ce process? Alors, trois invités, trois intervenants étaient prévus pour en débattre avec des casquettes et des spécialités différentes. Madame le procureur Virginie Deneux, procureur de la République adjointe au tribunal judiciaire de Nanterre. Monsieur le professeur Mathieu Soula, vous êtes professeur en histoire du droit et des institutions dans cette université Paris-Nanterre et devez également ouvrir.
Mais le plus remarquable dans cette affaire de Bobigny, c'est quelque chose qui est souvent ignoré. C'est que, notamment la mère, les 500 euros d'amende avec sursis qui avaient été prononcés, avaient fait l'objet d'un appel. Et que cet appel n'a jamais été audiencé. La peine s'est trouvée prescrite. Et donc, officiellement, la mère de la mineure n'a jamais été condamnée, puisque les magistrats ont... Évidemment, on va dire laisser prescrire cet appel. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est finalement plus remarquable que le fait d'avoir rendu des décisions qui étaient parfaitement justifiées selon le droit de l'époque et qui correspondaient cependant à l'état de la société. Puisqu'effectivement, ça a été dit, le droit se veut être le reflet de la société. Sauf que le temps qu'on fasse effectivement un processus législatif, il y a souvent un décalage entre le droit actuel et la société, sachant qu'il est du devoir et de la mission des acteurs judiciaires de faire en sorte d'appliquer le droit et de l'appliquer intelligemment au regard aussi de ces exigences de société.
Alors, la question que je pose par rapport à vos interventions, pensez-vous que le procès est un point commun justement qui permet aux juges de pouvoir remettre en cause ces déconceptions de la manière de valider la règle des droits? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'appuyer pour concevoir les droits uniquement sur des textes formalisés, c'est-à-dire les sources, les instruments juridiques, ou il faut également se baser sur la conception assez matérielle qui s'appuie sur les valeurs et notamment qui s'est construite par les besoins sociaux et nourri par, ou confirmé par la jurisprudence ou les précédents.
Je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter tout de suite là comme ça, de but en blanc, une réponse. Mais si j'ai bien compris la question, l'idée c'est, je ne suis pas sûr que l'application mécanique d'un texte, c'était le sens de l'intervention que vous avez fait l'honneur de nous faire, c'est-à-dire que la magistrature s'appuie aussi bien souvent sur son interprétation de ce que peut être l'équité, de ce que peut être la morale sociale à un moment donné, pour utiliser plus ou moins le droit, l'utiliser plus ou moins dans un sens conventionnel. Donc il n'y a pas d'application mécanique du droit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire, voilà, il y a une manière d'interpréter le droit ou de ne pas l'appliquer ou qui fait que bien souvent on peut s'autoriser à l'appliquer d'une manière plus ou moins fidèle. Je pense à la fameuse lettre au jeune magistrat qui l'écrit.
La nuit du droit, c'est aussi la possibilité pour les étudiants d'incarner les métiers du droit vers lesquels ils se dirigent. Cette expérience particulièrement formatrice, les étudiants du Master Justice, Procès et Procédure de l'Université Paris-Nanterre la vivent ce soir en mettant en scène des reconstitutions d'audiences d'affaires familiales. Un exercice pédagogique riche pour ces étudiants de 4e année, une longue préparation en amont en témoigne.
C'est bien de s'entraîner, donc je vous propose... On va commencer par la première affaire. On va le faire en situation, c'est-à-dire vous ne restez pas à vos places, on va s'installer dans la salle comme si on était dans la salle avec l'aménagement, avec le bureau du magistrat et puis les pupitres des parties et de leurs avocates et de leurs avocats. Et voilà, et on va voir les questions qui se posent au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ?
Moi, je joue le rôle du magistrat, donc à quel moment je dois rentrer dans la salle, comment je rentre dans la salle?
Oui, alors j'ai oublié de vous dire déjà, celles qui jouent le rôle de magistrat et les avocats sont en robe, donc déjà vous êtes reconnaissables, mais c'est vrai que quand le public sera dans la salle, vous ne serez pas encore dans la salle, on va utiliser la salle qui est au fond pour jouer le rôle, enfin pour les coulisses, et donc vous allez arriver par le fond. La greffière d'abord, qui sera jouée par une assistante de justice et donc qui connaît bien, qui pourra aussi un peu nous briefer un tout petit peu avant le début parce qu'elle connaît bien évidemment le fonctionnement du tribunal. Elle appellera l'affaire. À ce moment-là, vous rentrez dans la salle, donc le magistrat est parti, et personne ne s'assied avant que le juge ne se soit assis et dit « vous pouvez vous asseoir ». Donc vous rentrez dans la salle, vous allez à votre bureau, vous vous asseyez, vous dites aux parties « vous pouvez vous asseoir ». Et là, les parties, les avocats s'assied, et là, on peut démarrer.
100 euros par mois, vous pouvez y aller, vous recevrez vos décisions par courrier.
Merci. Alors, je vous rappelle, parce que, évidemment, vous avez parlé d'adaptation, donc là, c'est bien 26, parce que c'est... Et là, il faut que vous disiez le nom de famille, parce qu'en fait, quand vous dites les vacances scolaires, avant, on disait, c'est comme ça pour monsieur, parce qu'il y avait un monsieur et une dame, mais, comme, mais maintenant, comme vous avez dit pour madame, on ne sait pas laquelle, donc il faut que vous disiez pour madame Campion, pour qu'on sache qui a cette...
Alors, j'appelle l'affaire Campion-Imbert. Vous êtes séparés le 5 septembre 2016. Par un jugement du 13 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents, fixé la résidence habituelle de Marius en alternance au domicile de Madame Imbert les semaines paires et au domicile de l'autre parent les semaines impaires, fixé la contribution de Madame Campion à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 600 euros par mois. Madame Campion, vous avez saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures relatives à Marius, par requête du 6 décembre 2019. Dans cette requête, vous sollicitez la modification de la résidence habituelle de l'enfant et du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Marius. Nous avons procédé point par point. D'abord concernant la résidence habituelle de Marius, puis l'attribution d'un droit de visite pour Madame Campion et enfin la contribution. Madame Campion, vous avez la parole.
Ma situation a évolué depuis ces dernières années. J'ai déménagé à côté de Chartres, qui rend particulièrement difficile la résidence alternée de Marius. C'est fatigant pour lui de faire les allers-retours, aussi long chaque jour, et fatigant pour moi aussi. On a essayé de continuer de cette manière, mais l'état de Marius s'est dégradé. On nous a indiqué qu'il était moins attentif en classe et plus agressif. C'est pas bon pour lui de continuer ainsi. J'en ai fait part à Eva, et elle a parfaitement compris pour le bien-être de Marius. Ce n'est pas que je ne souhaite pas m'occuper de mon fils, c'est juste que ce n'est pas agréable pour lui. Je souhaiterais pouvoir profiter de mon fils 1 à 2 mercredis par mois et 2 week-ends par mois et ne plus faire de garde à vue.
Et vous, Madame Imbert, cela vous conviendrait? Pourriez-vous accueillir Marius de manière continue?
Oui, bien entendu. Ce serait la meilleure solution pour Marius, pour qu'il puisse s'épanouir et surtout être moins fatigué. Je vois aucun problème de ça.
Et s'agissant du droit de visite et d'hébergement?
La nuit du droit, c'est enfin l'occasion de parler du droit autrement. C'est avec une conférence sur les relations entre musique et droit que s'est achevée cette année cette soirée à l'Université Paris-Nanterre.
On dit que l'œuvre est originale quand elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, sa touche personnelle, en quelque sorte sa patte. Qui est-ce qui apprécie l'originalité d'une œuvre? C'est une compétence qui appartient au juge du fond, qui en fait une appréciation souveraine, puisqu'il s'agit d'une question purement factuelle. Pour apprécier l'originalité d'une œuvre, ne sont pas pris en considération sa valeur, son mérite, sa destination, sa notoriété, le fait que ce soit que l'œuvre soit belle ou qu'elle soit affreuse, ni le fait qu'elle ait nécessité un travail considérable ou au contraire qu'elle résulte d'une création instantanée, par exemple pour une improvisation. De même, les notions de nouveauté et d'originalité sont distinctes. Ainsi, même si une création est tout à fait nouvelle, qu'elle ne ressemble à rien d'intérieur, elle n'est pas nécessairement originale pour autant. Si par exemple, la forme qui lui a été donnée n'a été dictée que par des contraintes techniques.
Alors, s'agissant plus précisément des œuvres musicales, le fait que l'originalité réside dans l'association d'une mélodie, un nombre indéterminé de sons successifs, d'une harmonie, concordance de sons, percussions simultanément, accords, ou dans leur enchaînement. enchaînement et d'un rythme, structure temporelle, des éléments musicaux et de leur accentuation. Donc c'est en principe, quand on est dans ce cadre-là, l'existence de similitudes dans ces trois domaines qui va caractériser la contrefaçon d'une œuvre musicale. Généralement, ce qu'on considère, c'est que la mélodie, c'est l'élément le plus reconnaissable de l'œuvre. Autrement dit, si elle est reproduite totalement ou partiellement, la contrefaçon pourra être constituée. S'agissant du rythme, c'est différent, puisque généralement, un même rythme est utilisé selon le genre musical. Donc, on considère rarement qu'une similitude dans le rythme est suffisante à caractériser une contrefaçon.
C'est sur un concert inédit des solistes de l'Orchestre Mélodix, orchestre symphonique de l'Université Paris-Nanterre dirigé par Fabrice Parmentier, que cette soirée se termine au sein de l'UFR Droit et Sciences Politiques.
Bref, je vous propose d'écouter la première pièce de Mamère de Ravel. En fait, c'est un grand ballet, mais il en a tiré ce qu'on appelle une suite qui permettait de jouer en concert. Et la première pièce, c'est La Belle au bois dormant. Et ensuite, si vous en avez envie, si ça vous ennuie pas, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas que je parle trop, je vous fais une petite analyse pour vous expliquer à quel point Ravel est génial et pourquoi en fait il a été joué tout le temps et partout. C'est comme vous avez envie, on votera. On se remet dans l'ambiance. La Belle au bois dormant, forcément, c'est plutôt silencieux.
Claire Laborde-Mingeot, vous étiez l'une des doctorantes qui intervenait durant cette conférence. Alors un peu symboliquement peut-être, on a entendu beaucoup d'étudiants intervenir ce soir, des lycéens, des premières années, mais pas encore de doctorants. Alors vos mots à vous, de doctorant pour une personne qui commence ses études en droit, à l'issue de cette nuit du droit, qu'est-ce que ce serait ?
Alors je pense qu'un conseil que je donnerais à une personne en première année, c'est qu'il faut comprendre qu'une première année c'est long et il faut travailler régulièrement, aller en cours, essayer de comprendre les matières plutôt qu'essayer de, comme on a trop tendance à le faire, être dans l'urgence et essayer de les ingurgiter avant les examens. Essayer vraiment de prendre le temps, poser les questions en cours, prendre tous les conseils que les professeurs peuvent donner, c'est-à-dire lire toutes les copies, lire toutes les remarques et comprendre en fait, comprendre qu'on est là pour apprendre et donc ne pas hésiter en fait à demander quand on a besoin d'aide. Par exemple, se tourner vers ses camarades quand on a des questions ou se tourner vers ses professeurs.
Donc en fin de parcours, on est intéressé par le fait de savoir si les étudiants ont trouvé ce qu'ils venaient chercher ici. En quelle année vous êtes,
On est en deuxième année de licence.
Deuxième année de licence dans cette université à Nanterre. Oui. Et alors, vous veniez ici avec quelles attentes et est-ce que ça a répondu à ce que vous cherchez ?
Moi, c'était plus pour la recherche de stage, pour avoir des contacts, etc. Mmh. Et aussi en savoir...
Donc vous avez fait le forum des métiers ?
Oui. Et en apprendre un peu plus sur le concours de l'UNM. Et du coup, j'ai pu me renseigner dans le stand, avec un magistrat. Et ça m'a beaucoup aidé.
Ça vous a aidé ?
Oui.
Et il y a d'autres métiers, du coup, que vous avez découvert ?
On a fait aussi le stand pour les greffiers.
Ouais.
On a appris, du coup, qu'on pouvait... c'était après le bac plus 2 et qu'on pouvait avoir un stage aussi. Et voilà, ils nous ont donné une carte avec leur mail, etc., pour pouvoir les contacter.
On a fait le service pénitentiaire.
Ouais, on a fait le service pénitentiaire. On a fait aussi l'école du droit, enfin pour faire potentiellement
les avocats.
Ouais, voilà.
L'école des avocats ou encore l'école des impôts.
De la rigueur donc, mais aussi un esprit d'ouverture. Deux ingrédients nécessaires aux juristes, comme l'a montré cette soirée, pour être à l'unisson avec la société qui l'entoure. Un grand merci à tous les intervenants et participants de cette Nuit du droit 2025 et à tous ceux qui ont permis l'organisation et la réalisation de cet événement exceptionnel. Nous remercions chaleureusement le tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que l'UFR de droit et sciences politiques pour leur confiance et tout particulièrement le professeur Natacha Sofanor-Brouillot et M. Vissarion Giannoulis. Merci enfin au label Unisson, Université de l'innovation sociale et solidaire de Nanterre, pour son soutien à cette Nuit du droit 2025. Une émission Amicus Radio réalisée par Marin Hirsinger.